Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille. Coup d'œil dans le rétro aujourd'hui au menu de l'émission des motards, il y a que 50 ans, le 16 février 75 à 10h, 286 pilotes prenaient le départ de la plus grande course d'enduro d'Europe et de la plus longue course du sur sable du monde. Il y a 50 ans, Emmanuel Couteau à 10h mettait plein gaz sur la plage du Touquet. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors c'est bien vrai, il y a 50 ans, ça fait un petit peu ancien combattant, hein, un peu, non ?
Ah, tout à fait, ouais, ça fait 50 ans, mais j'avais 22 ans et voilà.
T'avais 20... avec quelle machine ?
Je lui étais engagé avec une 250 XL, une 250 XL Honda, toute d'origine.
Comment s'est passé le départ ? Tu te souviens un peu quand même ? T'avais la pression ?
Non, pas de pression.
Non,
pas de pression du tout. Non. Bah, c'était une course, nous, un peu détente. Hein, parce que
c'est une course détente.
Bah oui, parce que je faisais le championnat des Flandres à l'époque. Mais l'hiver, on avait évidemment pas de course. Et en début de saison, avant la saison en France, on allait rouler en Belgique. Parce que les Belges y commençaient bien avant nous. Donc, oui. Mais là, au mois de février, effectivement, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de course. Donc, on a vu qu'il y avait une course sur sable organisée au Touquet.
Ah, tu nous diras, comment vous avez appris cette course sur sable ? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone. Attends, on va en parler après, durant l'émission. Parce qu'on n'est pas seul. Hein,
ouais, bien sûr.
On a beaucoup de crossman aujourd'hui, ou d'enduristes, hein, ici, autour de la table. En face de nous, sur cette table aujourd'hui, un Philippe. Pareil, bonjour, 62 ans, Philippe. Je peux dire ton âge, ça te dérange pas.
Niche, ouais.
Voilà. Toi, tu participes au championnat des courses sur sable, mais en vintage.
Ouais, c'est ça. Hein,
depuis 3 ans.
Le CS, oui, à peu près 3-4 ans, je ne sais plus exactement.
Avec quelle machine ?
Avec un 3. Alors, d'habitude, c'est avec une 250 KTM GS de 81. Et donc, cette année, ça sera avec un 390. Toujours de 81 d'ailleurs. Une GS aussi. Parce que finalement, à 2,50, j'ai fini par la rincer, quoi. Parce que franchement, oui. J'ai eu du mal à franchir les lignes d'arrivée à chaque fois. On a eu du mal à les régler. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite saison de terre avec la 390. Là, j'ai déjà fait la ronde des sables. J'ai fait Graillant. Tout ça, c'est terminé.
Le championnat des sables, il y a six épreuves.
En vintage, il n'y en a que 5, puisque du coup, le Touquet est sorti du championnat. Voilà, donc ça démarre à Berck pour finir finalement à Graillant.
Très bien, bon voilà. Et puis pour terminer, il s'est incrusté, voilà, c'est Guillaume. On sait pas, il n'était pas prévu, mais voilà, il est avec nous aujourd'hui, Guillaume. Pareil, hein, tu participes régulièrement, depuis quelques années à l'Enduropale. Hein.
J'ai fait 3 fois le vintage.
Oui, 3 fois le vintage.
Et 2 fois la grande course du dimanche.
Ouais. Voilà.
Avec Xavier, Philippe.
Tu pourras nous dire aussi ton expérience aussi de ce qu'il faut faire, pas faire quand on débute dans une course de sable. Voilà, à tout de suite. We'll be right back. Manu, comment ça s'est passé il y a 50 ans? Le premier Enduropal, en 75.
En 75, ouais, c'est vrai.
Comment ça s'est passé?
Relativement bien, parce que nous, on arrivait là-bas sans pression, parce qu'on allait pour s'amuser, pour faire un entraînement, et puis en fin de compte, c'était une vraie course. Et puis, voilà, je m'étais engagé avec une 250 Honda qu'un ami m'avait prêté.
Une XLS, c'est ça?
Une 250 XLS Honda, ouais, toute d'origine. Ouais. Ouais. Parce que j'avais pas de moto homologuée et sur le règlement, il était bien stipulé qu'il fallait une moto conforme au code de la route, quoi.
Alors, au code de l'enduro.
Au
code de l'enduro, c'est-à-dire qu'il fallait l'éclairage à l'époque.
Tout à fait, ouais.
Et la plaque d'immatriculation, l'éclairage.
Tout.
Les silencieux.
Silencieux homologués.
Homologués, enfin, voilà.
Donc, j'avais qu'une moto de cross, donc un ami, mon collègue de travail, Jean-Pierre Quinet, m'avait prêté sa moto pour l'enduro. Et puis, voilà, on est arrivé là-bas, on s'est engagé un peu avec difficulté, parce qu'ils étaient un peu débordés, l'organisation était débordée par le nombre, apparemment, et ça a duré jusqu'à 8h du soir pour le contrôle administratif, quoi.
Il y avait 286 pilotes
qui
ont pris le départ, apparemment, d'après ce qu'on peut lire sur les sites. Hein. 286 pilotes. Et toi, tu as fini ta 17e.
Incroyable, ça. Même avec surprise, hein, parce que, évidemment, que la 250 XLS, elle manquait cruellement de chevaux. Et que dans les hauts, parce qu'à cette époque-là, on passait à mes villages, on prenait toutes les côtes, quoi. Hein. Qui ne sont plus maintenant dans le circuit. Et j'étais obligé de pousser pratiquement à chaque haute côte.
Quand on va sur les films de l'INA, tout ça, on regarde, effectivement, les pilotes descendent de la moto la poussent. Hein.
Ah oui, c'était obligatoire parce qu'il n'y en avait pas assez.
C'est ce que tu as fait aussi?
Ah oui, bien sûr, ouais, pendant toute la course. Quoi. Mais j'étais jeune et en forme, et ça s'est bien passé.
Là, tu pousses, alors il n'y avait pas de. Comme maintenant, il n'y a pas de stand,
Rien du tout.
Tu avais un mécanicien, non?
Non, c'est mon père qui m'attendait avec un jerrycan sur le bord de la piste.
Ah, d'accord.
Et puis voilà, on s'arrêtait, on faisait le plein et puis on repartait, quoi.
Et puis alors, ça c'est. Combien de temps a duré cette course, cette première course, elle a duré combien de temps?
Alors là, j'ai plus la mémoire. C'était relativement long, à mon avis. Peut-être.
Parce que maintenant, c'est 3 heures.
Ouais, non, c'était pas 3 heures, c'est sûr.
Parce que, je sais pas, Philippe ou Xavier, tu pourrais. Avant, il y avait. C'était une heure, c'était une heure et demie ou.
Il y avait deux manches.
Il y avait deux manches.
Deux manches d'une heure et demie.
Il y avait deux manches d'une heure et demie.
Oui.
Voilà. Et ensuite, on a arrêté de faire.
Les deux manches.
Les deux manches, hein. Voilà.
Et puis, mais là, peut-être bien une heure et demie à l'époque, mais j'ai plus vraiment en tête la durée. Mais bon, voilà, j'ai roulé le mieux que j'ai pu, et puis à l'arrivée, je savais même pas mon classement, parce que nous, on est reparti, voilà.
Comment ça s'est passé, au niveau du classement des temps, comment il y a, parce que maintenant, il y a un système électronique qui fait que, à chaque fois que tu passes devant la ligne, il y a un
transpondeur. C'était le pointage à la main.
Et comment c'était un pointage à la main?
Ah bah oui,
comme en motocross.
Comme en motocross, hein, on prend le numéro en passant, et puis dans des grilles, et puis à la fin, on voit, voilà, quoi.
D'accord.
Donc, mais ça se passait relativement bien parce que, évidemment, dans le sable, il n'y a pas de boue, donc les plaques, elles sont tout le temps bien visibles. Et
oui,
voilà, quoi.
C'est important, ça.
Voilà. Ah oui, parce que.
Voilà. J'ai vu aussi que, en fait, après le contrôle technique, il fallait aller peindre sa plaque, son numéro.
Ouais.
C'est ce que tu as fait ?
Il y avait un petit marquage de peinture, ouais.
De peinture, il fallait prendre le pinceau et marquer son numéro. Voilà.
Pour authentifier la moto.
Oui. Mm-hmm. Et c'était le pilote qui faisait ça ?
Non, c'est pas le pilote, non. C'était le contrôleur technique, oui. Commandant du RO encore maintenant.
Qui peignait ton numéro sur la plaque. Tu devais fournir la plaque à Nouval ?
Ouais, la plaque ovale, ouais. Et puis, il fallait qu'on fasse le numéro, ouais.
D'accord, très bien. Et puis, donc, tu l'as fait. Tu t'entraînais donc au clipon, le terrain d'entraînement, c'est ça ?
Voilà,
le
clipon, ouais. Ça, c'est après, hein, parce que là, pour le premier enduro, il n'y a personne qui s'était entraîné, on ne savait pas ce que c'était, de toute façon. Donc, il n'y a personne qui avait.
Comment vous avez appris qu'il y avait un premier enduro ? Parce que maintenant, on sait, hein, mais avec.
Mais je ne me rappelle plus, mais peut-être bien par l'intermédiaire de Motorevue, où il y avait une rubrique par région.
Ouais.
Que Guy Pilarzic.
Guy Pilarzic, ah oui, tu vois.
Le très connu
correspondant,
Guy Pilarzic.
Ouais. Ouais.
Et peut-être bien que c'est comme ça qu'on l'a appris, quoi. Et c'était le MCNF qui organisait à l'époque, quoi. Enfin, Sabine avec le MCNF.
D'accord, oui. Ça, c'était le club. Voilà. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas les pneus godets, il n'y avait pas les pneus sable. L'expérience, c'était le cross, en fait, le terrain de cross, la terre.
Tous les gens du coin qui faisaient du cross avaient leur moto de cross, évidemment, avec des numéros. Enfin, là. Et sinon, il y avait quand même pas mal d'étrangers à la région, donc des Parisiens, tout ça, qui venaient avec les gens qui faisaient le championnat de France d'enduro. À l'époque, ils étaient là avec leur vraie moto d'enduro. Voilà.
Et alors l'enduro, c'était quoi ? C'était sur la terre ou sur du chemin, mais pas vraiment dans le sable ?
Ah bah non, il n'y avait pas, sauf...
Parce que le sable, c'était une discipline qui n'était pas
c'est
courante.
C'est bien spécifique. Ouais. Il n'y avait qu'un enduro à l'époque qui se faisait en Bretagne. J'ai oublié le nom, ça va peut-être me revenir, mais il n'y avait que là où les enduristes roulaient un peu dans le sable. Sinon, c'est toujours de la terre, toujours. Ou des cailloux, quoi. Enfin bon...
Donc vous avez les pilotes ont découvert la nature de la course sur sable.
Ouais. Bah nous on allait rouler un peu en Belgique avant la saison française. Hein. On allait rouler un peu en Belgique parce qu'ils démarraient beaucoup avant nous. Et nous dans le sable, dans les Flandres, on allait rouler quand même dans certains terrains de sable. Donc quand on a les gens qui allaient à la BVM, donc la BVM c'était la fédération belge, une des fédérations belges parce qu'à l'époque il y en avait quatre. Et puis, bon là, on en a roulé de temps en temps dans le sable en Belgique. Il y avait aussi un terrain d'entraînement à Maubray, pas loin de Valenciennes, du côté de Saint-Amand-les-Eaux, la frontière, qui est en Belgique. Et là, c'était un terrain de sable, c'était une ancienne carrière de sable, où là, on pouvait rouler dans le sable. Donc c'était les occasions de rouler dans le sable, mais c'était quand même pas la majorité, quoi.
Il y a plusieurs types de sable, Philippe. Il y a le sable en carrière, le sable de la plage, on dit qu'à Loomplage, le sable à Loomplage, il n'est pas pareil qu'au Touquet.
Bah oui, enfin après l'une plage, le sable est un peu plus dense, il y a un mélange de terre, enfin etc. Donc du coup effectivement c'est un peu plus dur quoi. Mais Berck est très fin par exemple, Osgore aussi c'est un sable plutôt fin, enfin voilà.
Donc Manu, le sable de carrière et puis le sable de la plage du Touquet, quand vous êtes arrivé là, tu dis que la piste a été balisée sommairement.
Ah oui, tout à fait, ouais, il y avait quelques banderoles de temps en temps, des piquets,
ouais.
Voilà. Mais bon.
Il y a des pilotes qui se sont paumés.
Pour moi, non.
C'est interdit d'affaire.
Non, parce qu'il y avait la trace. Hein.
Quoi ?
Il y avait la trace, hein, donc de toute façon, non, pour perdre, ce n'était pas possible. Mais c'est vrai que ce n'était pas l'organisation comme maintenant. Hein. Il n'y avait pas de barrière.
Oui, bien sûr.
C'était voilà, quoi.
Et puis, oui, est-ce qu'il y a eu ce départ donc, sur la plage hein,
ça... Ouais, le départ en ligne au drapeau, bien sûr. Ouais. Hein, il n'y avait rien.
De la même distance, c'est 3 km, je crois.
Il y avait une belle ligne droite déjà, ouais. Là, la 250XL, sur le dur...
Sur le dur, ça allait encore.
Ça allait encore, quoi.
Ouais.
Quand on arrivait dans le sable, c'était plus compliqué, quoi.
Donc, il y avait toujours... c'était le départ de ce fameux goulot, là. Il y avait toujours ce premier... Le all shot, là, le premier virage, là.
Ouais. On prenait le goulet, hein, comme ça s'appelle, hein, ouais. Avec la première montée. Et puis après, on allait jusque mes villages. On prenait les grandes montées et les grandes descentes dans mes villages. On repassait par l'esplanade de Stella, d'ailleurs, à l'époque. Et puis après, on rattrapait les dunes et la plage, quoi. Hein. Mais c'était le grand circuit, à l'époque, quoi. Ouais.
Le circuit, il n'a pas changé cette première édition. Le circuit n'a pas changé après sur les éditions suivantes.
Il y a eu quelques années. Moi, je l'ai encore fait pas en 76, en 78, en 79. Il était encore conforme au premier enduro, quoi. Après, avec l'écologie, après avec les mairies, il y a eu des modifications, quoi.
En fait, tu dis aussi que les pilotes pour cette époque, ça allait prendre une telle ampleur.
Ah ouais, tout à fait, ouais.
C'était un one shot, c'était une première fois ou deux fois.
C'était pour.
Mais que ça allait pas devenir un petit peu ce que c'est que l'épreuve en 2025 là. Plus de 1000 pilotes.
On s'imaginait pas du tout que ça allait prendre de l'ampleur comme ça. Hein. Mais ça avait bien marché la première année, il y avait eu un peu de spectateurs, et puis la deuxième année, 76, c'est pareil, ça a toujours été en grandissant, quoi. Ouais.
Alors, tu dis aussi qu'il y a des gens qui ont triché, parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser des motos de cross.
Oui, mais bon, comme d'habitude, il y a des gens qui avaient leur moto de cross avec un éclairage et un feu, quoi.
Ça a avantagé les pilotes, ça ?
Ah bah oui, beaucoup, oui. Une vraie moto de cross, par exemple, c'est Vernier qui gagne, hein, Jacques Vernier,
oui.
Le beau-fils de Marcel Seurat. Bon, Jacques, il a gagné avec sa Ossa d'enduro, une vraie moto d'enduro.
Ouais.
Mais quand on prenait une Ossa Phantom, cross, c'était les mêmes motos, quoi. Hein. Si on leur mettait un éclairage, ça devenait une moto d'enduro, quoi, hein, si vous voulez.
J'ai vu que c'est des éclairages à piles.
Oui, bah beaucoup.
Pour pas avoir pour alléger le moteur.
Non, mais sur les motos de cross, il n'y a pas de.
Pas de bobine, rien.
Pas de bobine. Ouais. Donc voilà.
Donc on mettait un faux éclairage.
Un faux éclairage, voilà.
À piles. Donc si tu avais eu une moto de cross, peut-être que tu aurais fait même mieux qu'au 17e.
J'aurais fait mieux, je crois, parce que, ouais, franchement mieux. Parce qu'il y a cette époque-là, je crois que...
Parce que c'est quand même incroyable avec une 250 XLS.
Mais j'ai tiré mon épingle du jeu. Hein. Il y avait Richard Bossard, avec qui on roulait en ligue, hein, avec qui je me bagarrais tout le temps, qui, lui, avec sa Ossa, je crois qu'il fait 5 ou 6e, quoi. Donc j'aurais été...
Alors les Bossards, ils ont triché. Hein. D'après ce que j'ai vu, que j'ai pu lire sur les bouquins, les gros bouquins, là, ils sont venus avec
tricher,
les motos de cross.
Ils s'adaptent. Hein. C'est vrai que tout le monde... parce qu'après, c'était devenu monnaie courante. Hein. Tout le monde s'est engagé. Donc c'était des précurseurs, quoi.
C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de trails qu'on voyait, etc.
Donc, est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de spectateurs pour ce premier, là, en 75
Sur la digue où on faisait le ravitaillement, hein, c'était le plus simple, quoi. C'était le plus près du parc. Il n'y avait pas de parc à coureurs, d'ailleurs, tout ce monde.
Père, il était où avec le jerrycan ?
Avec le jerrycan sur la digue, là, pratiquement. Mais pas sur la digue, mais sur le circuit. Mais il n'y avait même pas de banderole à cet endroit-là. Hein. On était là, quoi. Hein. Et puis, il était sur la digue avec le jerrycan, tout simplement.
Il y a la mécanique aussi, parce que bon, c'est cassant comme une course sur sable. Il y a beaucoup de machines qui ont des problèmes. Hein.
On n'avait aucune assistance. Mais il n'y avait pas, pour l'époque, il n'y avait pas beaucoup de casse en fin de compte. Parce que il y avait beaucoup de trails, c'est vrai, qui elles sont habituées à rouler sur la route, quoi. Hein, donc ça pouvait rouler sur le sable. Bon, il y a eu un peu de casse, mais pas beaucoup par rapport à après, quoi.
Puis ça roulait peut-être moins vite aussi.
Ça roulait moins vite aussi. Tout l'ensemble roulait moins vite, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr.
Voilà, très bien.
Bon, écoute, on va passer un morceau de musique et puis après on va avoir Éric Poiret. Vous connaissez Éric Poiret, auteur de deux gros bouquins sur la table.
Génial, formidable.
De quoi, Xavier ?
Oui, une petite aparté, Nano. Tu oublies de parler de la sablière de l'offre.
Oui.
Ah,
c'est vrai qu'on
qu'est-ce
avait...
que c'est que cette sablière de l'Auffre.
Petit terrain qu'on avait ouvert nous-mêmes, d'ailleurs, oui. On avait été
roulé. Près de Marchienne, Pécancourt.
Pécancourt, oui. Ouais. C'est un tout petit circuit qu'on avait, d'ailleurs, qui a été utilisé après pour des crosses FFM et UFOLEP. Mais c'est nous les premiers qui avons été étonnés un dimanche. Parce qu'on n'avait pas de terrain d'entraînement, hein, et on n'avait pas encore de vraies motos de cross d'ailleurs. Et là, je devais avoir une Java transformée.
Oui, une Java de 50.
Et puis on avait été là-bas, et puis on avait vu cette sablière, c'était un terrain abandonné, quoi. Hein. Il y avait quand même un peu d'herbe en haut. Et puis on est descendu, nous, dans le terrain, on s'est amusé, puis d'un seul coup, on a vu arriver quelqu'un, c'était le propriétaire. Il nous a dit, qu'est-ce que vous faites là?
Comme d'habitude.
Et puis on fait de la moto, voilà. Vous voyez bien.
C'était le père de Marc Silver, propriétaire du terrain. Marc Silver, c'était quelqu'un de très connu après dans le motocross, parce qu'il a fait le championnat des Flandres 125.
Et
il a été deuxième.
Sidecar-cross
il a fait
aussi.
Du sidecar cross. Il a été entraîneur de basket à haut niveau.
Orchi. Hein.
Orchi, Denain, tout ça. Et puis Marc, après, bah, il était gamin, il était, parce qu'il est un peu plus jeune que nous. Et il était gamin, il a commencé à rouler quand nous, on a roulé là. Et c'était le début. Et là, c'est vrai, c'était une vieille carrière de sable qui avait été exploitée. Et voilà. Donc, on a commencé à rouler là-dedans. Et c'est vrai que là, c'était un peu sableux, ouais.
Voilà. Et oui, c'était un problème parce que là, maintenant, on va à Loomplage. Hein. Tous les pilotes, pour s'entraîner, vont à Loomplage. Hein, mais à l'époque, ça n'existait pas, Loomplage.
Non,
il fallait trouver des endroits où on pouvait s'habituer au sable, à rouler dans le sable.
Et puis,
tester aussi les machines.
Et ça coûtait moins cher aussi.
Et ça coûtait moins cher.
Il y a un certain nombre de terrains qui ont été fermés aussi, donc du coup, ça s'est réduit. Aujourd'hui, c'est Loomplage, quoi.
C'est Loomplage.
Voilà, très bien. Et même en région, hein, on vient ici.
Ouais, et puis le Clipon, comme on disait tout à l'heure, c'était un petit terrain pirate.
Alors, Clipon, c'est à côté de Dunkerque.
Et puis on allait rouler là, à la maison du pendu, là, comme on disait, une maison abandonnée. Et là, l'avantage qu'à l'époque, c'est qu'on pouvait aller faire des essais sur la plage. On nous disait rien, quoi.
Ah oui, vous allez sur la plage en plus.
Maintenant, on va en prison. Ouais.
Ah bah maintenant, c'est. Ouais, très bien. Oui, Manu, ça c'est vrai. Voilà. Bon, on passe à un morceau de musique et on retrouve Éric Poiret après, juste après le morceau de musique.
Volontiers.
magazine de la moto sur Campus 106,6 et aujourd'hui c'est un spécial 50 ans. Alors avec le Manu, hein, Manuel Couteau qui a pris le départ il y a 50 ans de la première épreuve de l'enduro sable du Touquet. C'est comme ça qu'on l'appellation c'était parce que ça a changé, hein, maintenant on est enduro pâle, hein, oui. Hein, quoi.
Non, je crois que c'était les 50 ans à Manu.
Là, c'est les 50 ans de Manu, non, je crois qu'il doit avoir plus que 50 ans. Et au téléphone, nous avons Éric Poiret.
Bonjour à tous.
Bonjour Éric.
Bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je suis là.
Ok, dis, tu es l'auteur de deux gros bouquins. Hein. D'abord, un premier, les 45 ans d'enduro. 45 ans, oui. Le Touquet, 45 ans. Et un bouquin qui est sorti là en fin d'année dernière, donc en novembre, Le Touquet, 50 ans de l'enduro. Est-ce que tu peux nous raconter si ça t'est facile? Parce que c'est des très beaux livres, hein, quand même, j'ai feuilleté. Hein, les photos, les légendes, tout ça. Est-ce que c'est facile à faire, ce genre de bouquin?
Non, c'est pas facile à faire. C'est beaucoup de travail, en fait, pour ces deux ouvrages. J'ai environ 8 ans de travail.
8 ans de travail.
À peu près tout cumulé, oui. Bon, pour le premier, ça a été un peu difficile de réunir toutes les informations pour pouvoir résumer un petit peu toute l'évolution de l'épreuve. Et puis ce travail pour le premier m'a servi pour le second aussi. Donc voilà, en tout, je dirais que à peu près c'est un travail sur 7 ans en tout.
Comment tu as fait pour trouver les photos? On te les a données, on te les a transmises, je sais pas comment ça marche.
Ça c'est un peu compliqué, mais il y a différentes sources.
Voilà, les sources, voilà, tes sources, oui.
Ma source principale, ça a été l'agence Mindru Photo, puisque l'agence a suivi l'épreuve depuis 1977 et a gentiment collaboré avec moi en me confiant tous ses négatifs. Donc j'ai une mine d'or à la maison. Et ensuite, c'était un gros travail de recherche pour retrouver un peu ce que je voulais parmi ces négatifs-là, numériser. Voilà, donc là, il y a un très très gros travail là-dessus. Ensuite, il y a différentes sources en fonction de ce qu'on recherche. Hein. La Fédération Française de Moto m'a filé des photos, depuis des photographes. Enfin, il y a différentes sources, quoi.
D'accord. On parle des 50 ans du premier enduro en 75, hein, voilà. Mm-hmm. J'ai lu la genèse de l'enduro. Hein, c'est en regardant le film Challenge One que Thierry Sabine aurait eu l'idée de faire cette course au Touquet.
Exactement. Exactement. À l'époque, on est dans un contexte années 70, c'est un peu la liberté. On commence à rouler un peu à gauche à droite comme ça. En nature un peu librement, c'est un peu l'époque de la naissance de la discipline enduro aussi en France. Et ce film un peu a donné effectivement des idées à beaucoup de monde, notamment à Thierry Sabine, en voyant les courses de désert, les courses de masse qui se déroulent en nature avec un millier ou plus de participants. Et avoir l'idée, c'est bien, après il faut encore la mettre en œuvre. Et au Touquet, justement, Thierry Sabine travaillait pour la mairie du Touquet à l'époque, et le maire cherchait un événement l'hiver, lui avait donné un peu cet ordre de mission de lui trouver un événement l'hiver pour réveiller la ville. Et lui pratiquait beaucoup le sport automobile, Thierry Sabine, mais aussi la moto avec des amis. Et donc lui est venu un peu naturellement l'idée de créer cette course après avoir vu le film Challenge One, les images de toutes les belles images.
Alors ce film, c'est un documentaire, hein, sur une course en USA.
C'est ça, voilà. c'est multidisciplinaire, ouais. En fait, le film. D'ailleurs, dans le livre, j'explique un petit peu, il y a tout un chapitre qui est consacré à ce film, qui explique un petit peu tout ce qu'on peut y voir, et notamment les courses de désert.
Voilà, alors donc, Thierry Sabine voit ce film, et donc il propose l'idée au maire du Touquet, hein, qui était Léon Zépré.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Et Léon Zépré, il doute quand même au début, hein. Il n'est pas partant. Hein. Il n'est pas trop chaud quand même.
Il n'est pas trop chaud parce que la station, elle est un peu bon chic, bon genre quand même. Hein. Donc, oui. Ramener un peu. Oui. C'est un peu l'idée, hein, ramener un peu la population
de
la moto. C'est pas très le genre. Voilà, on est plutôt sur équitation, tennis, golf. Au tout
c'est,
cul,
ça, oui, c'est ça, oui.
Hein.
Oui.
Mais bon, c'était un pari. Et du coup, il avait aussi proposé ça à sa directrice de l'office de tourisme qui, elle, croyait au projet. Et donc, elle a été très très influente. Elle s'appelait Annie Cools. Elle a été très très influente pour, avec Thierry évidemment et d'autres personnes pour réussir à décider le maire qui.
Alors le maire.
C'est cette fameuse phrase banco.
Banco, effectivement. Ça c'est dans le bouquin. Hein. Je reprends tes propos.
Exactement. C'est, exactement. Banco. Et moi je reprends les propos d'Annie Cools.
Mais il dit banco, mais je veux que ça se passe l'hiver.
Ah oui, oui.
Parce que l'hiver, il y a un petit souci quand même au Touquet.
L'hiver, il y a un souci au Touquet, c'est que la station dort.
Dort, voilà. Et la ville de Touquet paye une partie du chauffage aux hôtels.
Oui. Elle vient en aide aux hôteliers parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'activité, donc il n'y a pas de touristes, il n'y a personne. Et pour qu'ils puissent arriver jusqu'au printemps et l'été, la mairie, effectivement, donne une subvention aux hôtels pour les aider un peu à survivre durant l'hiver.
Voilà. Et donc, en 74, il y a un embryon d'enduro qui est mis sur pied, et sans grande publicité, hein, une soixantaine de motards se réunissent pour un aller-retour à travers Dieu entre Merlimont et Berck-sur-Mer.
Voilà, exactement. C'est
il y a un nom, c'est le.
On a appelé ça l'enduro zéro.
Zéro, hein, enduro zéro. Hein,
voilà, on a appelé ça l'enduro zéro. Il a eu lieu en février 74, donc un an avant le vrai enduro des sables. C'est à l'initiative de Gilles Lamar, qui était un très très bon ami de Thierry Sabine et dont les parents avaient aussi une résidence secondaire au Touquet, donc ils se côtoyaient là-bas. Ils roulaient aussi ensemble à moto de temps en temps, les week-ends. Et Gilles Lamar, lui, avait organisé cet enduro zéro justement sous la forme un peu de ce qu'on peut voir dans le film Challenge One, c'est-à-dire quelque chose de pluridisciplinaire, avec un peu de trial, un peu de motocross, un peu d'enduro, une spéciale, et aussi une course un peu qui ressemblait à la course de désert, mais qui allait passer dans les dunes pour le coup. Et donc entre Merlimont effectivement et Berck, ils ont organisé cette petite course, il y avait d'autres disciplines, mais cette course de sable qui faisait partie d'un ensemble, et donc ça a donné des idées aussi. On a vu que les gens à cette époque-là du coup étaient contents d'avoir fait ça, que ça pouvait marcher. Et en relatant un petit peu la réussite de son épreuve, qui était pas officielle, hein, c'était une épreuve en fait qu'il avait organisée lui, sauvagement, quoi, mais qui avait bien marché.
C'était pour voir comment ça se passait, c'est enduro zéro là, voir comment c'est les petits soucis éventuellement qu'on pourrait avoir.
Oui, c'était pour faire un petit test en fait, pour voir s'il y avait possibilité de faire quelque chose de plus grand. Et ça a bien fonctionné. Donc après, Gilles Lamar a raconté tout ça à Thierry Sabine, qui n'était pas.
Il n'était pas là. Il était sur une course de voiture. Hein.
Voilà. Oui, c'est ça. Il était sur un rallye.
C'était un amateur de voiture de course.
Et c'était un pilote, oui, un pilote très très chevronné.
Très
d'ailleurs.
Chevronné, oui.
Et donc, il lui a relaté un petit peu ce qui s'était passé et que les gens étaient contents. Et beaucoup de gens de pilotes de Paris étaient venus, notamment.
Oui.
Et donc, ils étaient très très contents de cette course sur sable et étaient sans doute potentiellement enclin à revenir pour quelque chose d'officiel, quoi. Donc voilà.
Voilà. Il y a des gens connus, hein, comme Marcel Serin, qui était aussi dans l'histoire, oui. Là.
Oui, ben, les importateurs avaient vu aussi à travers Challenge One, ça donnait des idées à tout le monde. Hein. Donc les importateurs avaient senti aussi que commercialement, il y avait quelque chose à faire en faisant des courses de masse, forcément. Et Jean-Claude Olivier aussi, avec Yamaha.
Jean-Claude Olivier aussi, oui.
Voilà, ouais. Jean-Claude Olivier, lui, était un peu plus le local de l'étape. Bon, il venait quand même rouler, il roulait déjà dans les dunes et sur la plage. Donc Marcel Serra a apporté un peu son aide à Thierry Sabine en lui fournissant des motos pour tracer un peu la piste, tout ça. Il était même venu lui-même avec certains de ses pilotes pour faire un essai de la piste quelques mois avant la course. Donc voilà, Marcel Serra a officiellement fait partie du comité d'organisation du premier enduro des sables.
Oui, parce qu'on parlait avec Manu avant de t'avoir au téléphone. Hein. Mm-hmm. Pour eux, pour les pilotes, c'était une première aussi. Hein, parce que pour rouler dans le sable, il n'y avait pas de terrain d'entraînement. Hein, et c'était plutôt la terre. Hein. Manu ?
Oui.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Il n'y avait pas d'entraînement de sable. Non, tout à fait.
Voilà, donc on se doute que c'était pas évident quand même de faire cette première édition. de l'enduro?
Non, c'était une première, c'était une première pour tout le monde, on va dire.
Voilà.
Donc voilà, donc après les pilotes, la plupart étaient des amateurs finalement. Hein. C'était un rassemblement d'amateurs avec quelques professionnels qui allaient venir pour faire un peu la vitrine commerciale des marques.
Oui.
Et ça l'est toujours d'ailleurs, c'est toujours une course d'amateurs avec quelques professionnels dedans. Hein.
Alors normalement, tous les participants devaient prendre le départ avec le même pied d'égalité, avec un droit d'engagement de 50 balles, 50 francs à l'époque. Alors, je ne sais pas combien ça fait. Combien, Xavier, ça fait combien 50 francs en euros là? Je ne sais pas.
Je crois que ça fait 8 euros.
Ça fait combien?
10 euros.
10 euros, 50 balles. Voilà.
Ah non, même pas.
8 euros.
7,50 euros, 8 euros.
Soyons larges.
Bah disons, il y a eu de l'inflation. Hein.
C'est pas comparable.
C'est pas comparable, ouais. Voilà. Et alors, les machines devront obligatoirement être immatriculées, dotées d'un échappement silencieux et équipées d'un système lumineux. Mais on parlait avec Manu, hein, qui nous a dit que certains avaient triché. Ils avaient utilisé des motos de cross.
Bah oui, forcément. Hein, il y avait beaucoup de systèmes un peu de magouilles à l'époque.
J'ai vu dans le bouquin là, qu'ils avaient mis des phares avec des piles.
Ouais, des motos... tout à fait. Oui. Manu peut le confirmer, je pense. Hein. Il a dû avoir passé une paire.
Ah oui, beaucoup. Dit,
ouais. Ouais, bah,
tu
oui,
me dis
bah,
que c'est après, les frères Bossin hein, qui avaient triché.
Ouais, oui, voilà.
Il n'y a pas que, mais
on ne va pas donner de nom.
On ne va pas donner de nom. Ah, mais c'est dans le bouquin, alors moi, je.
De toute façon,
moi, je me suis dit qu'on pouvait le donner. Hein.
Voilà. Non, oui, c'est vrai. Après, c'est Manu qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. C'est
un témoignage. D'accord, ok.
Mais peut-être qu'à l'occasion, parmi les frères Bossard, peut-être quelques-uns pourront nous le confirmer. Mais bon, de toute façon, c'est de bonne guerre, c'est de notoriété. À l'époque, il fallait respecter les règlements. Enduro,
oui.
Et pour rouler dans le sable, bon, il y avait certains qui avaient plutôt utilisé des machines de cross parce que c'était un peu plus adapté. Et on voilà, on mettait une pile, un phare,
oui,
une lampe, et voilà, et puis ça passait.
Voilà. Et puis ouais, maintenant il y a les pneus godets, hein, il y a les pneus pelles là qu'on appelle ça. À l'époque, ça devait pas exister.
Ça commence à exister, je pense, déjà, oui. Le plus célèbre pneu à godet de l'enduro du Touquet, c'est Brad Laquet en 1980.
En 80, oui.
Qui était venu avec ce pneu-là, qui dégageait des pelles de sable à chaque passage.
Oui.
Mais bon, voilà, maintenant, on a des pneus sable. Ça accroche aussi un peu plus, mais le pneu à godet, il y en a qui en avaient. Ouais.
Ouais, mais les pneus à godet ont été interdits après, hein, parce que ça levait vraiment beaucoup de sable. Hein.
Ah oui,
mais sinon, c'était utilisé aux USA dans les courses de désert, quoi, hein, bien sûr.
Ah, oui, complètement. Oui. D'ailleurs, il y a une année où, alors qui c'était Jean-Charles Tonus avait été disqualifié de sa troisième place parce qu'il avait utilisé un pneu à godet.
Et puis quand on regarde les images, hein, à l'époque, les casques aussi, c'était des casques type jet, avec des simples lunettes type aviateur.
Moi, ouais, c'est ça. En fait,
et puis même le vêtement, les vêtements.
Avec ce qu'on avait, quoi.
Ouais, c'est ça. C'était vraiment.
Bah, c'est une course de vrai amateur.
C'était amateur, c'était improvisé. Voilà.
Ah, alors, c'était.
Ouais. Ce que j'ai vu aussi après, alors là ce serait impossible de faire ça maintenant, hein. Après les vérifications techniques et administratives, direction l'atelier peinture.
Oui, tout à fait. Donc chaque pilote était invité à venir avec son cercle jaune, enfin son ovale jaune,
oui.
Pour mettre à côté à la plaque phare, quoi. Par contre, il y avait effectivement les services techniques de la ville qui avaient organisé un atelier peinture pour mettre les numéros. Donc on voit quand même que sur les photos, on trouve pas énormément de photos de 75, mais sur le livre, on en voit quelques-unes et on voit bien que le lettrage est le même pour tout le monde sur les plaques jaunes. Mais par contre, les plaques jaunes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors certains ont pris le fond d'un seau jaune, enfin peu importe, se sont débrouillés comme ils ont pu. Manu nous dira ce qu'il avait pris d'ailleurs.
Vous avez pris, Manu ?
Mais
moi, je crois
attends, Manu va répondre.
J'avais pris une plaque de ma CZ de cross pour fixer sur l'avant de la XL, ouais.
Voilà, mais par contre, le numéro, on voit que le lettrage est le même pour tout le monde, parce qu'il y avait un atelier peinture.
Et alors, on parlait aussi du chronométrage, parce que là, actuellement, c'est un transpondeur, donc c'est facile encore.
Ah oui.
Mais à l'époque, il n'y avait pas ce système.
À l'époque, il n'y avait pas ce système, mais bon, pendant très très longtemps, de toute façon, le pointage a été manuel quand même. Hein. Je pense que jusque à peu près la fin des années 90, peut-être même après, le pointage était manuel. On voyait des commissaires essuyer les. Il y avait une chicane en fait pour le pointage. Bon, il y avait des gens qui étaient là pour essuyer les plaques à chaque passage de pilote pour que les pointeurs puissent voir.
On imagine.
Mais oui, bah alors là, oui, effectivement, il y a un classement du premier enduro des sables.
Oui.
Mais bon, j'imagine que le pointage a été bon. C'était le motoclub du Nord à l'époque qui était. Qui gérait l'aspect technique de la course, donc le pointage aussi, mais bon, ça y a dû y avoir des erreurs, forcément, il y a dû y avoir un peu des oublis, des choses comme ça.
Oui, parce que quand il pleut, évidemment, le sable, ça colle quand même, Manu. Mmh. Tu nous as dit que c'est pas la terre. Hein, parce que
cette année-là, il faisait beau, je me rappelle
les
conditions étaient bonnes. Ouais,
mais il faisait très froid, par contre.
Voilà, on peut-être avancer dans le temps quand même. En 80, le parcours est appelé Enduro des Sables.
Au tout début, c'est l'Enduro des Sables.
Des Sables du Touquet, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Oui.
Ouais. Et suite à la plainte des associations de protection de la nature, la course a quitté les dunes pour la plage.
Oui, oui, on a fait un sacré bond en avant, puisque là, on est déjà en 2006.
Oui.
Donc en 2005, effectivement, c'est la dernière année de passage dans les dunes qui avait déjà été raccourcie en 2004. Donc le parcours dunaire complet, c'est la dernière fois qu'il a été emprunté, c'est en 2003. Voilà, avec un très très gros problème au niveau de la dune de mes villages,
oui,
qui provoquait un énorme bouchon et qui a vraiment été c'est le dernier passage, quoi. Derrière,
alors, là, tu vois, je te raconte un peu ce qui se passe ici dans le studio. Hein. Il y a Xavier qui a un micro, pourtant, qui pourrait te poser la question. Non, il me l'écrit. Pose la question à Eric.
Oui, salut Eric.
Écoute quand même.
Salut Xavier.
Je voulais, si c'est possible, que tu parles un peu du vintage. Hein,
oui.
Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de l'enduro, c'est tout à fait normal, de la catégorie officielle. Mais depuis quelques années, il s'avère que le vrai vintage est un peu beaucoup abandonné. À savoir qu'on n'en parle pratiquement pas et surtout on ne voit plus de vieilles machines. Les pilotes qui ont des vieilles machines hésitent à venir effectivement avec ces machines de collection. Ça coûte très cher à entretenir et il faut vraiment avoir de la volonté pour venir avec ces vieilles machines. Et l'organisation n'en fait absolument pas cas. Il n'y a pas de remise de prix spéciale pour les vieilles machines, pour les vieux pilotes, donc je fais partie. Je prêche.
En fait, il parle pour lui, Eric.
Oui.
Lui, l'âge de sa machine et son âge, à Xavier, ça fait 137 ans. Hein.
137.
Le couple, ça fait
136 ans. Et...
Voilà. Donc voilà la question. Donc qu'est-ce que tu penses qu'effectivement on voit beaucoup de machines qui sont équipées des fourches de motos modernes. On parle pas du moteur en plus. On ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Je me souviens de
Le vintage.
Je me souviens d'une réflexion qui m'avait été faite en voyant une moto de vintage mais super préparée par des champions qui ont gagné plusieurs fois le Touquet d'ailleurs, on ne va pas les citer, et on m'a dit bah, tu vois la fourche de ce mec là elle vaut autant que ta moto. Donc c'est te donner une idée de ce qui est devenu le vrai vintage, quoi, qui perd un petit peu de...
Voilà, tu comprends qu'il y a, bon, il y a un souci pour Xavier.
Oui, pour moi et pour beaucoup d'amis et de pilotes qui ont toujours envie de rouler sur des vieilles machines et en faire la démonstration. Et je trouve
c'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment, effectivement, autour du parc, hein, quand on est sur place. Maintenant, bon, moi, je ne fais pas partie de l'organisation. Donc, bah après, je pense que toutes les idées peuvent être bonnes. Il faut les proposer pour des classements de classe, en fait, justement, avec des machines peut-être plus vintage et un classement pour les motos, je ne sais pas moi, d'avant 1980 par exemple. Donc c'est un exemple, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est réalisable parce que une fois de plus je ne connais pas tous les aspects techniques en termes d'organisation, etc. Donc je n'en fais pas partie. Donc à savoir que déjà le règlement avait changé, puisqu'au départ on était sur des motos d'avant 1990, me semble-t-il.
Ouais.
Et il y a quelques années, on est passé à 1996.
Alors, on rajeunit de plus en plus. Donc,
De mémoire, c'était pour s'aligner sur les règlements internationaux, parce qu'il y a beaucoup de courses vintage et des championnats vintage en Belgique notamment, je crois, et les motos étaient 96, donc c'était un alignement, si mes souvenirs sont bons, des règlements. Donc là, effectivement, les motos au tout début, donc le premier enduro pas vintage, c'est 2015, hein, pour célébrer les 40 ans. Il n'y avait pas beaucoup d'engagés, il y avait 150, je crois, de mémoire. Il y avait peut-être plus de motos vintage, effectivement, dans les premières années. Maintenant, les motos aussi, elles vieillissent. Les pièces aussi sont peut-être plus difficiles à trouver quand on casse. On est passé de 150 pilotes à 750 maintenant, là. 720, je crois, ou 750, là.
Ça fait beaucoup, quand même.
D'ailleurs, ce serait une bonne idée de mettre une plaque jaune pour célébrer les 50 ans, comme les motos, les plaques jaunes de, oui, du 75.
Ben, voilà, moi,
des numéros peints à la main.
Peints à la main, ce serait bien. Ça, c'est ça, le vrai vintage.
Ce serait bien, mais je ne suis pas sûr qu'aux vérifications, non, ils vont pas, ce mais... soit bien accueilli.
Oui, oui, je me doute.
C'est un peu compliqué. Ouais. Bon, bref, bon. Toujours est-il que, voilà, donc effectivement, tous les motos, peut-être aussi, il y a plus de dangerosité d'abîmer sa moto. J'imagine que quand Xavier roule, s'il roule avec 150 pilotes sur la piste et 750 pilotes, il y a quand même plus aussi peut-être de danger d'abîmer sa bête de collection.
Il y a des risques, effectivement, mais
il y a plus de risques. Enfin, voilà.
Ça fait partie du jeu.
J'ai quand même noté sur la liste des participants, j'ai quand même noté un petit peu de la Maiko, de la Montessa, donc la CZ, forcément, de la Beta, de la Kramer, JLD. Donc, il y a encore quelques
KTM
mamies quand
aussi,
même.
La KTM.
Oui, alors là, je parle vraiment pour les anciennes, les motos et des marques un peu, on va dire, moins connues, mais il y aura certainement des vieilles YAM, des vieilles KTM. Tous les ans, il y a des KTM liquides, etc., de début des années 80.
Refroidissement air aussi, hein.
Il y a comment ?
Refroidissement air aussi.
Oui, bien sûr.
Oui, il y en a.
Avant 81.
Voilà. Ouais, ce que j'ai noté, c'est bien, c'est parce que les pilotes qui participent le dimanche à la course de l'Enduropal ne peuvent pas s'inscrire au vintage.
Plus.
Oui.
Oui, parce que ça faisait un entraînement pour eux, et donc ça a limité les inscriptions, et puis peut-être des gens qui n'ont pas cette idée de vintage, de faire revivre les vieilles machines, quoi.
Bah, c'est un peu pour toutes ces raisons-là, en effet. Après, voilà, ça concernait en tout à peu près 60 pilotes. Hein, c'est tout.
Bah, écoute, voilà. Très bien. Oui. Bon, on va terminer cette interview, hein, parce que ça fait quand même 22 minutes que l'on discute, Eric. Tu te rends compte ?
C'est les 50 ans. Hein.
Et c'est les 50 ans, je reconnais que
ça prend du temps. Un beau livre pour les 50 ans, il faut en parler.
Et c'est un beau gros livre pour les 50 ans, effectivement.
Pour ce livre, hein, parce que moi j'ai adoré, et c'est vrai que... on se retrouve dedans, enfin pour les plus anciens, on apprécie, quoi, retrouver un peu des images qu'on a vécues, quoi. Enfin, voilà. C'est un bouquin qui est agréable à avoir, à posséder, à consulter, et vraiment il a toutes les qualités.
C'est gentil, merci beaucoup.
Le prix est intéressant.
Oui, 5 euros, je crois.
C'est bon. Aussi, ouais.
Non, c'est pas 5 euros.
C'est vrai que
non, mais je rigolais. Dis, Eric, si on fête 50 ans, là, cette façon de l'enduro, mais il n'y a pas eu 50 courses.
Non, il y a eu 2 éditions qui ont été annulées.
Alors en 91
En 91, à cause de la guerre du Golfe et de l'absence de moyens de sécurité suffisant pour une manifestation d'une telle envergure. Donc l'armée était un peu réquisitionnée ailleurs, et c'est bien compréhensible. Et aussi, je pense qu'à l'époque, le plan Vigipirate était dans ses premiers... une des premières fois où il y avait le plan Vigipirate, et donc toutes les forces de police également, l'organisation n'avait pas les moyens d'assurer la sécurité de tout le monde pour un tel événement. Oui. Et puis 2021, le Covid, hein, forcément, on va dire quand même que c'est, il y a que 2 événements très très majeurs quand même, une guerre et une épidémie mondiale qui ont empêché l'Enduropal de se tenir, ou l'Enduro du Touquet de se tenir. C'est quand même fort, quoi. J'espère, peut-être, j'aimerais bien, une réunion des anciens vainqueurs.
Ah, ce serait bien, ça.
Voilà, donc...
Mais il faut se dépêcher, parce qu'il vieillit, ça.
Il y en a plus beaucoup, hein.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Si, il y en a encore beaucoup, mais malheureusement, il y en a certains qui nous ont quittés.
Jacques Vernier est décédé, le vainqueur de l'édition 75.
Oui, Jacques Vernier est décédé, il y a déjà 5-6 ans. Tout à fait.
Voilà. Et donc, en 2022, initialement prévu le 28, 29, 30 janvier, c'est reporté toujours à cause du Covid, au 25 et 27 février. Il y a eu un déport de date.
Voilà. Oui, tout à fait, c'est ça.
Voilà. Et ben, je vois souvent ce qu'on a. Est-ce que vous avez des questions, Philippe, Eric, pour terminer cette interview là ?
On aurait plein de questions, mais
Oui.
Ça fera l'occasion d'un autre, bah, tu crois, d'une autre rencontre.
Voilà, Xavier.
On ne peut pas le louper.
Très bien, Eric. Bah, écoute, on te laisse parce qu'on sait que tu as un rendez-vous là, urgent. Et puis, on a un peu dépassé le temps de parole. Mais c'est pas grave, c'était très intéressant.
J'espère que toute votre équipe viendra au Touquet pour célébrer l'événement. Hein. Ce serait super. Et on attend beaucoup de monde. Et des belles choses. Il y aura des très, très belles choses, notamment un musée éphémère que l'organisation. Oui. Est en train de mettre en place. Oui. Bon, moi, j'apporte une petite contribution à cela. Et puis, voilà, feu d'artifice, des conférences, et puis des participants. Bon, je ne vais pas donner de nom, mais à course vintage, notamment, peut-être une surprise, une chose comme ça, on verra.
Ok, très bien, merci Eric. Et voilà. Écoute, on te souhaite de passer
merci
un bon dimanche.
Vous. Mais bon dimanche à vous également.
Et puis à bientôt.
À très vite.
Merci.
À bientôt.
Salut,
au revoir.
Eric.
Merci à vous.
Au revoir.
Salut, au revoir.
Hey you.
Il y a presque 50 ans, le 16 février 75, à 10h, Emmanuel Couteau mettait plein gaz sur la plage du Touquet. Manu, c'est bien vrai, t'as mis, t'étais au taquet ?
À plus
t'étais
que
embuté,
taquet.
T'étais embuté
ouais,
la poignée.
Vraiment embuté, ouais. Avec la 250, il fallait. Ouais.
Ça faisait quelle vitesse ?
Ça faisait un petit 120 au compteur.
120 au compteur ?
Ouais, peut-être.
Ça bouffe de la puissance, hein, quand même, le sable.
Le sable, ouais, en se mettant à la limite où c'est un peu dur, cherchant le dur.
Mais il ne faut pas trop aller sur le mouillé quand même.
Non. Faut...
Parce que là, on risque de...
Mais de toute façon, on le sent tout de suite. Hein.
Il m'est arrivé des soucis l'année dernière.
Ah ouais.
À l'arrêt. Je me suis enlisé.
Ah oui.
Oui, c'est vrai que c'est pour toi. Hein. C'est une info. Hein.
Merci.
Évite d'aller un peu là où, quand la mer vient de se retirer, tu sais, le sable est encore mou. Ça fait sable mouvant, en fait.
Et puis, okay, les bâches.
Les bâches, oui, bien sûr.
Quand tu commences à voir les tons, c'est bon, t'arrêtes.
Alors, donc, Manu, il te conseille de plutôt d'aller à l'endroit où c'est pas tout à fait sec, mais pas trop mouillé quand même, tu vois. C'est pas évident, c'est ça.
Mais Manu, l'importance, on la sent, hein, la moto, elle ralentit.
Faut que tu donnes des conseils aux jeunes.
On sent, de toute façon, avec la portance qui devient bonne ou moins bonne, la moto, elle ralentit ou elle accélère.
Est-ce que tu avais changé la démultiplication
Non.
Pour tirer plus court ou plus long?
Non, on avait laissé l'origine, parce que plus long, la moto, elle veut pas le prendre. Hein, y a pas assez de
plus long, t'as pas... Oui.
Voilà. Donc on était resté sur la transmission d'origine.
Oui, puis après, dans les dunes, c'est pas si plus long.
Après, trop long, après, on n'y arrive plus, quoi.
Voilà. Bon, alors ça, c'est tu l'as fait combien? Deux, trois fois. Hein,
moi, cette j'ai fait trois course. Fois, ouais.
Voilà. Et après, là, tu passes mécanicien.
Après, je passe mécanicien, ouais.
Alors, raconte-nous un petit peu, tu es devenu mécanicien, quoi, des pilotes de renom connus.
Déjà, c'était mon travail. Hein, j'étais mécanicien moto, hein, donc dans une concession. Et puis, j'ai commencé à préparer des motos pour le SAP, parce qu'on avait pris un peu l'habitude. Et puis, en 81, j'étais concessionnaire KTM. Et en 81, Royal Moto, donc l'importateur KTM, donc Kerel, qui était un des associés, et qui lui faisait le championnat de France d'enduro, m'ont demandé pour m'occuper de la moto de Joël Kerel sur toute la saison. Donc j'ai fait sa moto toute la saison, et puis il est devenu champion de France, c'était sa dernière année, il est devenu champion de France. Et de fil en aiguille, comme on roulait déjà nous dans le sable, quand KTM a décidé de venir au Touquet, ils m'ont demandé de les aider un peu, donc nous on avait déjà un peu d'expérience du sable, un peu les réglages. Donc voilà, j'ai eu la moto à Groux à faire quand il a fait 3e en 82, je crois. Et au début, quand Royal Moto a fait venir les pilotes d'usine pour espérer gagner, ce qui s'est passé d'ailleurs, les pilotes d'usine sont venus avec leurs mécaniciens, leurs camions, leurs ingénieurs, et ils nous avaient demandé de prévoir un petit peu les consommations des motos pour arriver avec des contenances de réservoir qui conviendraient pour le nombre de tours, tout ça. Donc nous, on leur a donné un peu nos éléments qu'on connaissait, des réglages, des consommations, et puis on était allé rouler aussi un peu en dehors du Touquet pour essayer les motos. D'ailleurs, à cette époque-là, Kerel y avait serré une 420. Finkeldé en 82, il avait serré sa moto aussi. J'ai refait sa moto dans le camion jusqu'à 9h du soir. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des... Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça, exactement.
Oui, il y a l'époque aussi Kees van Erven.
Alors après, Kees van Erven, il était là dès le départ, hein, mais eux, c'était un Hollandais avec leur mécanicien. Le sable, c'est leur bac à sable, hein, ils connaissent parfaitement. Mais pareil, l'ingénieur était venu nous demander ce qu'on avait mis comme réglage, ce qu'on consommait, voilà. Et puis après, van Erven, il a fait ce qu'il sait faire, hein, il a gagné, quoi, évidemment.
Je crois que c'est cinq fois.
Cinq fois de suite, oui.
D'affilée, hein.
Tout à fait, oui. C'était un pilote exceptionnel, hein, hyper calme, il arrivait. Nous, on faisait partie des ravitaillements de chez Royal Moto. Donc, c'est nous qui faisions les ravitaillements des motos, regarder s'il n'y avait pas de problème. Mais Kees van Erven y arrivait lentement, pas énervé. Et on avait le temps de regarder la moto et elle repartait tranquillement. Il y avait l'assurance qui était dans les bons. Donc, il n'y avait jamais d'énervement avec lui, jamais. Et donc, ce qui fait qu'il a quand même gagné 5 années de suite.
Donc, on voit qu'au fil des années, donc, la technique, ça s'affine.
Oui, l'expérience.
Alors, maintenant, c'est des moteurs à injection, je pense.
Moteurs à injection. Donc, ouais, maintenant, il y a des plus... temps.
Mais à l'époque, c'est des carburateurs.
Il faut tout adapter.
Raconte-nous un petit peu au niveau. Il faut plus riche, moins riche. Il faut changer les gigleurs.
Il faut changer les gigleurs. Il faut adapter la carburation.
L'hydrométrie, la température.
La température est très importante. Hein, entre 12-15 degrés et 1 degré, c'est pas du tout pareil. Il faut enrichir, mais pas trop. Si par malheur la température elle augmente à l'heure de la course, là on devient trop riche. Donc c'est toujours un choix.
Comment tu fais? Vous avez des...
On a des petits...
Un abac
Non, on essaye la moto, on fait tourner la moto, on essaye la moto suivant le temps. Chaque moto elle a pas exactement le même réglage. Parce que le moteur n'est pas pareil, on n'a pas la même compression, il peut avoir des modulations dans les réglages. Ça, c'est un peu l'expérience, un peu la chance, hein, parce qu'il faut avouer que quand il y a des changements de température ou des conditions qui changent, c'est pour ça qu'il faut toujours garder une petite marge. Si on, c'est pas là que la moto elle marche le mieux, mais on a une marge de sécurité. Sinon, on peut jouer avec le feu, la moto elle marche mieux, mais c'est dangereux. Et là... ça peut serrer, c'est ce qui arrive souvent.
Et puis aussi au niveau de l'essence, il faut, parce que maintenant on suppose qu'on pour limiter le poids de la machine, on essaye de mettre la quantité juste nécessaire pour l'essence,
mais c'est pareil.
On peut consommer plus ou moins suivant la température,
suivant l'importance du sable ce jour-là.
Oui, c'est ça aussi. On va en parler avec Philippe Possid, qui participe au vintage aussi. On a des années où le sable est fin. Ou des années au contraire, il est très dur, et compact.
Ça peut faire varier la consommation aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours se garder une marge, une marge de sécurité, parce que la panne d'essence au Touquet, c'est fini, la course elle est morte.
Et les bouchons, les fameux bouchons dans le temps, moins maintenant, où on pouvait consommer énormément.
Alors moi je me souviens d'une histoire avec quel pilote, histoire de silencieux là. On change pas son silencieux pour avoir un peu plus de puissance.
Il y a eu un problème, c'est avec...
Comment s'appelait
Yves Dedon.
Il s'est fait déclasser à cause d'un silencieux.
Alors, on le proclame vainqueur.
Ouais, ouais.
Et une heure après, on dit, finalement, il est déclassé. Ouais. C'est pas très professionnel de la part de l'organisation du Touquet. Je me souviens de cette histoire-là.
Tout à fait, il s'est fait piéger avec ça. Et donc, c'est Pichon qui est déclaré vainqueur. Mais Pichon, ils ont changé son silencieux
un tour avant.
Voilà, ils se sont doutés que...
Est-ce que c'est normal?
Moi, je dis que c'est le règlement, donc on ne peut pas le discuter. Mais c'est quand même malheureux que Dedon ait perdu Dedon la est course perdu, à cause de ça, alors qu'il avait gagné sur le terrain.
Il avait gagné sur le terrain.
Voilà, c'est un gros problème.
C'est arrivé qu'une fois, cette histoire.
Mais Jean n'était pas n'importe qui non plus, comme par hasard.
Il était champion du monde,
Champion du monde motocross.
Lui, ses mécanos et son organisation a fait le nécessaire, si tu veux. Voilà, puis ils n'y ont pas pensé, et puis voilà quoi.
Donc ça veut dire que tout ça, les carbus, les gigles, le réservoir, le silencieux.
C'est tout un ensemble qui fait que.
Tout ça, ça fait que tu.
Que
tu
ça se passe bien, ça ou, se passe moins bien.
Ou moins bien. ou terriblement moins bien.
J'ai connu le terriblement moins bien de nombreuses années.
Isaac, tu t'as noté?
J'ai noté, t'as merci. Merci Manu.
Je pense que ta moto, c'est une injection.
Ma moto, c'est une injection. Elle est 2024.
Ça s'adapte automatiquement, non? Il y a quand même des petits réglages à faire quand même.
Non, ça s'adapte automatiquement.
Automatiquement. Allez, on passe à un morceau de musique et après on se retrouve avec Philippe qui participe donc au championnat des sables en vintage.
Une partie, tout de suite
après le morceau de musique.
System seem to be overloading. I need a minute to breathe.
Alors, à votre avis, c'est quoi? C'est une KTM, une CZ, une, ce que vous venez d'entendre?
C'est une 250 déjà, c'est sûr.
C'est une 250, oui. Laurent, ouais.
Peut-être bien
nous,
une.
Nous fait signe que oui. Ouais.
Ouais, ça peut être une 250 mono, évidemment, de temps. Ça peut être une...
Oui, de temps,
mais
oui.
Mais ce serait bien une KTM.
Ouais.
Hein, c'est ça.
Ouais. Ah, voilà. Et, bon, ben écoute. Ah ouais, on a plein en stock, ah comme ça. Hein. Ouais. Ah bah, on peut faire une émission. Hein.
Ah, on peut
faire une émission, là.
Pas,
c'est pas comme ça. Voilà. Bon, Philippe, alors toi, oui. Tu participes au calendrier de CFS, donc des courses sur sable. C'est ça.
France,
donc, championnat de France. Sable, hein. Donc, tu as participé à Lune Plage.
Oui, la ronde des sables de Lune Plage en octobre. Voilà.
Ouais. Et aussi à Graillon l'hôpital.
Ouais, la GURP TT, ouais.
Voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est d'abord, est-ce que l'ambiance est la même là-bas sur et Graillon l'hôpital, c'est sur la plage?
Alors non,
dans les dunes.
Il y a encore, enfin, je pense 2 ans maintenant que c'est supprimé la plage, même pour l'épreuve du dimanche, enfin les quads, etc. Pour des raisons environnementales d'ailleurs, entre autres. Donc du coup on prend plus la plage. Et les vintage d'ailleurs n'avait jamais pris. Enfin en tout cas de moi de l'épreuve ça va faire 3-4 ans que j'ai fait. Et donc on prenait pas la plage non plus. On avait un circuit plus réduit pour ménager un peu les machines, hein, aussi. Je pense que c'est aussi cette raison.
Oui, la longueur de la ligne droite, est-ce que c'est pareil au Touquet? Alors,
non, là, il n'y a pas de ligne.
Il n'y a pas de ligne droite.
Il y a une ligne droite, mais très courte.
Très courte.
Hein, voilà, oui. Dans le massif forestier, puisqu'en fait, pour la GURP, hein, en tous les cas, ça se déroule dans le massif Les Pins. D'ailleurs, c'est une très jolie épreuve. Moi, c'est aussi pour ça que j'y vais. Ça me rappelle un peu mon enfance. Et donc, du coup, on navigue entre on pilote entre les arbres. Là, c'est une piste qui est sympa. Voilà.
Très bien. Mais il y a autant de spectateurs.
Il y a beaucoup de monde. Alors justement,
c'est pas aussi populaire que le Touquet, quand même.
Bah, il y a quand même du monde, hein, très oui. Sincèrement. Alors,
est-ce qu'il y a les mêmes catégories, les oui. Juniors, ouais, les ouais, espoirs, ouais. Les quads?
Toutes les catégories sont là présentes. Ouais.
D'accord. Et donc, il y a combien? Il y a 5 courses sur Vintage. 5
là sur le vintage
5 rendez-vous durant à partir d'octobre.
Ouais, ça commence là en octobre avec la Berck. Après il y avait la ronde des sables à Loun. Après on avait Osgore. Après la Lagune Saint-Léger de Balzon, la GURP TT de Graillon, et puis bon, on finit par l'enduro, mais qui lui est sorti du CFS.
Oui, alors on en parlait tout à l'heure avec Xavier, qui n'est pas content parce qu'il se dit finalement maintenant dans le vintage il n'y a plus de vraies vieilles machines. Et apparemment, carrément, c'est une course à. On est le même. Le vintage, puisque de toute façon, il y a un championnat.
Alors bon, là,
il y a un classement, il y a un championnat.
Exactement.
Est-ce qu'on gagne de l'argent ?
Il y a deux catégories.
Il y a une prime ?
Alors oui, je crois qu'il y avait, par exemple, à Lune Plage, il y avait une prime pour les V2. Bon, donc, si je ne dis pas de bêtises. Mais en revanche, bon... Moi, en tant que pilote, non. Je ne fais pas forcément ça pour ça.
Non, mais je suppose qu'il y en a qui viennent pour ça.
Alors, oui, en tous les cas, dans la catégorie V1, les pilotes qui sont devant, c'est pour gagner, de toute manière.
Ouais. En vintage
En vintage, oui.
Que ça soit, explique la différence entre V1 et V2.
Alors, V1, c'était plus performant. Les V2, c'était plus performant que les V1.
Alors, oui, surtout chez Hitler.
Les V1, en fait, c'est toutes les motos. Et les V2 sont les machines bi-amortisseurs ou cantilever.
Ah oui.
Donc, moi, ça fait deux fois que je râle. Jusqu'à maintenant, j'avais rien dit. Mais c'est vrai que quand j'ai vu passer sur les podiums des gens qui passaient avec des motos qui étaient beaucoup plus modernes que les miennes, ça n'a pas de sens. Donc, si la Fédération française organise un championnat avec des catégories, que ces catégories soient respectées et que l'on contrôle.
Non, ça n'a pas de sens.
Voilà, donc moi j'ai une machine, un 390 KTM de 81, bi-amortisseur, bi-tambour, refroidissement à air, il n'y a pas de souci, enfin, c'est visible, hein, très clairement. Donc la seule chose, c'est qu'il faut que les organisateurs se donnent les moyens de vérifier, tout simplement.
Bah, c'est ouais. Surtout les contrôles techniques, hein. Il y a des contrôles techniques moto, c'est à eux de dire cette moto-là c'est une V2 ou pas une V2. Parce que là, ils laissent rouler en V2 des V1, ce qui est absolument anormal. Et au classement, ils se retrouvent troisième alors qu'ils étaient premiers des V2.
Voilà. C'est vraiment le souci de cette catégorie vintage.
Voilà. Mais
Xavier, oui, alors
personne ne prend ça en main sérieusement.
On n'en parle pas de ça, mais effectivement, il faut faire attention. Hein. Il faut mettre des chaussettes sur les filtres à air.
Filtres à air graissés.
Ah, la chaussette, pour un auditeur qui s'impose, si c'est qu'une chaussette, il met des chaussettes sur les motos. Non, c'est pas sur les pneus.
C'est un filtre très fin qui vient en plus du filtre d'origine et qui, effectivement, empêche toute pénétration de sable. Mais ça doit être
préparé. Et ça, c'est très important, ça, hein, parce qu'un petit grain de sable, Manu.
Tout à fait.
Un grain de sable, c'est qu'a dû le dire.
Un grain de sable dans la moto. C'est une catastrophe.
C'est une cata, hein.
Mais c'est vrai que tu parlais tout à l'heure.
C'est une cata.
Vous parliez de.
Zach, prends note, hein.
Mmh. C'est noté, c'est déjà.
N'oublie pas de mettre des chaussettes dans tes bottes aussi.
Mais tout à l'heure, vous parliez des réglages avec Manu, là. Mais effectivement, moi, j'ai cassé énormément avec la 2,5. C'est pour ça que maintenant, je suis passé en 390 aussi.
Avec la 390 de Xavier.
et grâce aussi à Manu, hein, ses compétences et son expérience, du coup, ça m'a permis aujourd'hui de fiabiliser quand même la machine. Donc, effectivement, même là, à Graillant, par exemple, j'avais fait des réglages la semaine d'avant à Lune Plage. Il faisait 1 degré. À Graillant, il a fait 8 degrés.
Ah, c'est pas pareil.
Et j'étais trop riche. Et j'arrivais à pas tenir ma troisième. Ouais. C'est-à-dire que voilà, elle prenait pas ses tours comme il avait. Donc, voilà, le choix est quand même important, hein, en termes de réglage. Ouais.
Bon, Isaac, qu'est-ce qui t'a pris de participer en Duropal ?
Bah, j'ai toujours eu l'ambition de le faire, parce que voilà, étant petit, je voyais la course à la télé. Et voilà, voir tous ces pilotes s'élancer sur la plage du Touquet à fond de balles comme ça, en toute insouciance, ça m'a toujours donné envie. Et donc voilà, j'ai commencé sable depuis maintenant 8 mois. Et voilà, donc avec tout ce qui va avec, hein, préparation de la moto, préparation du pilote aussi. Enfin voilà, tout le.
Tu t'es entraîné à Lune Plage ?
Ouais, c'est ça, je me suis entraîné à Lune Plage, donc ça fait maintenant, 4 mois que j'y vais au moins une fois par semaine.
Ah oui.
Si ce n'est deux.
Donc ah, t'es assidu, hein.
Ouais, je suis assidu, ouais, carrément.
Parce que moi, j'en connais qui se sont inscrits en vintage et qui n'ont pas encore fait de décès, hein.
Non,
pas d'échauffement, rien du tout. Ils savent même pas si le carburateur il marche bien ou pas.
Il n'y a pas eu encore d'essai.
Il est juste à côté de moi, là, il parle.
Mais bon, on va.
Tu as ton team, t'as les mécanos déjà de prévu.
Ouais, c'est ça, ouais. J'ai déjà donc deux potes qui vont me faire le ravitaillement. Parce qu'en fait, avant, donc je regardais un peu les règlements des années précédentes. Faut savoir qu'avant, on pouvait être juste que 3 par pilote au ravitaillement.
Oui.
Et donc là, depuis cette année, maintenant, c'est 2 personnes.
Oui.
Et donc voilà, donc j'aurai deux potes qui seront là pour me faire l'assistance et la mécanique en cas de besoin. Mais bon, j'espère que tout se passera bien de ce côté-là.
Ah oui, nous aussi, on espère. Hein, et...
ouais, tout à fait. Oh, oui. Mais je peux te donner un conseil.
Donne un conseil, oui.
Ouais, surtout, c'est de faire attention à l'embrayage dans les bouchons.
Alors, l'embrayage.
Ok.
Attention.
Parce que
hein.
Ça, c'est catastrophique. Hein. Déjà, tu vas griller l'embrayage si tu insistes vraiment. Il vaut mieux, quand tu as un gros bouchon où c'est inextricable, il vaut mieux arrêter le moteur.
Ok.
Hein, parce que systématiquement, ta température d'eau, elle va monter. Au-dessus de 120, au-dessus de 110 degrés, ton bouchon, il va déclencher. Tu vas perdre de l'eau. À partir de là, tu auras moins de refroidissement. Il ne faut pas oublier que ton embrayage, il dissipe sa température dans l'huile du moteur. Hein, les disques chauffent énormément et tu dissipes cette température dans l'huile moteur. Et l'huile moteur, elle le met dans les carters et dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'après, t'as beau avoir de l'eau dedans, elle va chauffer
elle
quand
va
même.
Chauffer, ouais.
Voilà.
Comprends tout à fait. Bah,
ouais,
c'est, avant
que,
tout.
Et ça t'a coûté cher un peu cette.
Ouais, ouais, quand même. Ouais. En fait, si on met vraiment tout bout à bout, ce soit déjà les frais d'essence pour se rendre à Loon Plage une à deux fois par semaine.
Ah oui.
Les consommables sur la moto. Hein, on parlait tout à l'heure des filtres à air, mais bon, il y a des chaussettes, mais bon, il y a pas que ça. Il y a également la chaîne qui doit être avec des joints toriques.
Ouais.
Il y a également donc les pneus sable dont on parlait tout à l'heure. Après c'est différent aussi en fonction des feelings qu'on a et de ce qu'on recherche aussi dans sa pratique. Mais bon, moi j'ai également fait une préparation au niveau de mes suspensions. Donc pour que ce soit pas non plus trop mou, parce que dans le sable on fatigue beaucoup aussi au niveau des bras sur une course de 3 heures. Il est aussi, je pense, important de mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir avoir une machine qui soit adaptée à sa pratique et à son pilotage. Mais oui, voilà, c'est ça. Il y a les huiles, il y a les changements d'embrayage, le câble de gaz. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui font que ça
l'engagement.
Coûte
des... L'engagement.
Qu'est-ce que tu l'engagement également, ouais, bon, la licence.
Je pense qu'il est, bon, Manu, petit jeune. Hein.
Ouais, il va faire bien, je pense.
Il connaît pas mal de choses.
J'ai confiance, ça va.
Ouais, voilà. On m'a dit que tu t'es blessé quand même.
Oui, je me suis blessé il y a de ça 3 mois en fait. C'est des choses qui arrivent, mais j'ai fait un par l'avant lors d'un entraînement. Et donc je suis retombé en fait au niveau de la cage thoracique sur le guidon.
Oh yeah.
Et donc ça m'a fait quelques commotions au niveau pulmonaire. Et donc c'est vrai que j'avais mon pare-pierre.
J'avais quand même.
Mais j'ai quand même eu le.
D'accord.
C'est le métier qui commence à rentrer.
Mmh. C'est ça, exactement.
Tu sais que ça s'appelle. Tu sais que ça s'appelle un OTB ce que t'as fait.
Ouais, c'est ça, ouais. OTB qui du coup veut dire.
Over the bar, au-dessus du guidon.
Ouais, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais.
Un OTB. D'accord. Bon, écoute, voilà. On sait tout. Donc messieurs, l'émission se termine. Il nous reste quelques minutes, on a le générique, voilà. Isaac, bonne chance. Hein.
Merci de l'accueil.
Ah, en tout cas, c'est pas la grande course, hein, c'est la course
c'est
du dimanche.
C'est ça,
hein,
la course du dimanche.
3 heures.
Exactement, les 3 heures.
Bonne chance. Hein.
Merci. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Courage. Bon, alors pour Philippe et notre vieux guerrier Manu, hein, qui a 50 ans a pris le départ.
Il
sera dans les stands du premier enduro 75 à 10h.
C'est vrai que c'est dommage parce qu'on avait des épreuves de deux fois une demi-heure et aujourd'hui on est sur une heure.
Oui.
Il y avait un format où les gens pouvaient venir aussi rencontrer les machines à l'époque. Ça c'était sympa. Voilà. Ça se fait plus.
Okay. L'émission se termine. Merci messieurs d'être venus aujourd'hui raconter votre vie sur les plateaux de Radio Campus Lille.
Et bon dimanche.
Et merci à notre technicien qui nous a passé quand même des bruits de moto que vous ne reconnaissez même pas. Ah oui, franchement, vous n'avez pas été les chercher. Hein. L'émission se termine, passez un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain.
Bon
salut,
dimanche,
bye.
Ouais,
allez, merci,
salut.
Bon dimanche. Salut.